Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciades et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 14 novembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Benoît Séverac. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Avec qui nous allons parler de son nouveau roman intitulé L'homme qui dessine et paru aux éditions Syros. Mais avant, une nouveauté qu'il me tient à cœur de vous annoncer. Page à Page est dorénavant rediffusée le vendredi soir à 23h sur Radio Occitanie, bien entendu. Ainsi, ceux qui n'ont pu l'écouter en direct à 15h pourront l'écouter le soir à 23h. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, avant de parler donc du livre de Benoît Séverac, la page info. Pour vous signaler, samedi 22 novembre de 19h à minuit, une nuit orientale au musée des Augustins, 21 rue de Metz à Toulouse, dans le cadre de l'exposition Benjamin Constant, avec Hamid Berrioni, un conteur de talent et auteur également, qui était venu à Page il y a quelque temps déjà. Pour tout renseignement, 05 61 22 21 82, un moment féerique en perspective pour petits et grands. Et puis la deuxième et dernière info qui concerne directement mon invité d'aujourd'hui, jeudi 27 novembre à partir de 19h au restaurant panoramique La Table du Belvédère, situé 11 boulevard des Récollets à Toulouse au 8e étage, rencontre avec Benoît Séverac autour de son nouveau livre L'homme qui dessine, paru chez Syros, suivi d'un dîner avec l'auteur. C'est une rencontre organisée par le club littéraire du Belvédère et Philippe Lasterle. Réservation au 05 62 26 69 14. Et là aussi, je pense que ce sera un beau et bon moment en perspective, je n'en doute pas.
Page à page, Claire Ambille.
Technique de cette émission. Alors Benoît, tu étais venu à Page il y a quelques mois pour nous présenter Le garçon de l'intérieur, la suite de Silence, l'histoire de Jules, cet adolescent qui était devenu sourd à la suite d'une rêve partie.
Oui, c'est en fait les deux romans, voilà. L'homme qui dessine et Le garçon de l'intérieur se sont suivis. Enfin, L'homme qui dessine a suivi
l'apparition voilà,
du garçon de l'intérieur de quelques mois seulement. Oui.
Voilà, mais totalement différent. Hein.
Deux
romans, je précise, totalement différents. Donc là, aujourd'hui, tu reviens avec L'homme qui dessine, paru aux éditions Syros. Et il est tout à fait différent de, que ce soit de Le garçon de l'intérieur ou de Silence. On va le voir. Alors, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. Un roman original, palpitant et profondément humain. Et puis c'est un roman aussi qui a pour cadre eh bien, le Mas d'Asile dans les Pyrénées françaises, ce tunnel naturel daté d'il y a de 35 000 ans avant notre ère, donc ce n'est pas récent. Et puis surtout un roman aussi qui a pour époque la préhistoire, l'époque donc de l'origine de l'homme, à l'aube de l'humanité, avec des personnages pour certains attachants, pour d'autres inquiétants, mais qui sont tous tellement humains. Et puis un mystère avec des morts inexpliquées au sein d'une tribu et donc une enquête à mener pour découvrir le coupable. Et puis un suspense garanti jusqu'à la fin du roman. Donc c'est un roman qui est sensible, qui est teinté de tolérance et d'humanité et qui est très bien documenté et très accessible pour tous. Je tenais à le préciser pour nos ados qui sont des fois un peu fâchés avec la lecture. Donc il est à la fois pour les ados et pour les adultes. On va y revenir dans un instant, Benoît. Et puis, donc, c'est un roman qui ne laisse pas indifférent. Et après la lecture, on y pense encore longtemps. Il laisse, parce que forcément, eh bien, on est au fond des origines, enfin, à l'aube des origines, de notre origine, de l'origine humaine. Et donc, forcément, ça nous touche de très près.
Bon, mais merci pour tous ces compliments.
Ah bah, non, mais ils sont sincères. Hein. C'est ce que j'ai éprouvé en lisant ton livre. Hein.
Ben, j'écris souvent, quand tu parles de qualité humaine ou de sensibilité, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de. Qui traverse mon œuvre, quoi. En général, quelles que soient les époques que j'explore, ou quel que soit le genre, j'essaie toujours de mettre beaucoup d'humain là-dedans et beaucoup de sensibilité. Je crois que c'est un peu
c'est réussi.
Hein? Ben, merci.
Parce qu'on le ressent à la lecture, tout
oui,
à
c'était,
fait.
Oui, c'était un des défis que je m'étais lancé au départ en écrivant sur la préhistoire, en choisissant cette période.
Et oui.
Je m'étais dit que je voulais partir du postulat qu'ils avaient les mêmes, même si ça peut être contredit par la philosophie, en fait, mais ils avaient les mêmes préoccupations humanistes que nous. Affirmer
ou
ça,
alors
hein.
C'est nous qui avons les mêmes queues
je sais pas, on peut rien affirmer parce qu'on n'a aucune trace,
oui, bah
évidemment,
oui,
mais donc je pense qu'on peut pas affirmer le contraire non plus.
Non,
je suis parti du principe que mon héros avait une conscience humaniste, il avait même une conscience existentialiste,
oui.
Et il était conscient de sa propre finitude, de la finitude de son peuple aussi, parce qu'il voit son peuple disparaître, parce que c'est un néandertalien, lui. Et voilà, je me suis dit, imaginons que nous soyons à l'aube de l'humanité, enfin non, au crépuscule de l'humanité.
Oui, au crépuscule, ce qu'on n'est
pas loin d'ailleurs. Enfin, nous, on n'est pas loin du crépuscule de notre humanité, peut-être. Hein, on n'en sait rien, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'angoisse autour de ce que l'environnement est en train de devenir et de ce que notre planète est en train de devenir. Il y a énormément d'angoisses qui sont générées par ça. Et pourquoi pas imaginer des hommes préhistoriques conscients que, enfin, notamment les Néandertaliens, conscients qu'ils étaient en train de disparaître, que leurs petits naissaient chétifs ou ne vivaient pas longtemps,
voilà,
etc. Et pourquoi pas imaginer un blues, le premier bluesman de l'humanité, quoi. Je crois que c'est un peu ça que j'ai inventé là.
Et ben, en plus, c'est basé sur des faits réels. Enfin, tu t'es documenté. Il y a eu beaucoup de recherches.
Ouais, hein, pas des faits réels.
Tu as fait des recherches, sur cette époque. C'est quand même.
Oui,
ce n'est pas que de la fiction.
Ce n'est que de la fiction.
Mais
le décor, la documentation
existe,
et
bien sûr, le Mas d'Asile, existe forcément, mais. Mais
non,
après,
mais, oui, au niveau historique, au niveau historique, c'est très documenté.
Voilà.
Ça a été préfacé par Francis Duranton.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, qui est paléontologue et qui est directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Et d'ailleurs, il dit deux phrases qui m'ont bien plu et qui en plus résonnent dans ce roman. La différence entre les individus est une richesse. Et il dit aussi, l'étranger, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, est aussi notre frère humain. Je trouve que ce sont deux choses qui sont très importantes et qu'on a malheureusement tendance à oublier un peu trop souvent.
Ça, c'est dans la préface de Francis Duranton.
Et
Francis Duranton, ça a été une belle rencontre avec cet homme-là, parce que c'est un paléontologue et donc intéressé par l'humain.
Et c'est
un humaniste aussi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui l'a lu comme ça. Et je suis très, très heureux de cette préface qui est magnifique. Sa préface est très, très belle.
Il a aimé aussi ton livre.
Ça fait toujours plaisir. Mais c'est surtout que lui a vraiment aussi cette démarche de tolérance et de voyage vers l'autre. C'est ça aussi la science. Lui, c'est un scientifique. La science, c'est aussi, notamment la paléontologie, c'est aussi aller vers l'autre.
Tout à fait. Donc, il le dit, dans sa préface. Et donc, ça devait être effectivement une belle rencontre.
Oui, ça l'a été. C'est devenu une amitié, oui.
Alors, l'histoire, si on en vient à l'histoire. Alors, Munj, un adolescent de 15 ans, vit dans la tribu des hommes droits. Et il est l'homme qui dessine, celui qui parcourt le monde et le dessine donc pour le raconter aux siens. Et il dessine donc des traits noirs sur des écorces de bouleau avec des baguettes de noisetier qu'il trempe dans la cendre. Et il aimerait d'ailleurs mettre les belles couleurs de la nature sur ses dessins, mais il n'a pas encore trouvé comment faire. Faire la couleur.
Il y a tout un propos sur l'art. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, ni des peintures pariétales, ni de l'histoire de l'art en général. Tu le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est la naissance du beau, de la notion
de l'esthétique.
De l'esthétique. Et je j'avais envie d'avoir un héros qui était préoccupé par ça, sans pouvoir vraiment y répondre. Et d'ailleurs, bon, on n'en dit pas plus, mais certaines réponses apparaissent aussi dans le roman.
Tout à fait, dans le déroulement. Alors, et un jour, donc, alors qu'il est parti de son camp depuis des lunes et des lunes, il découvre dans la rivière un corps transpercé d'une sagaie, le corps d'un jeune homme qui sait, c'est une autre tribu, et il est capturé justement par cette tribu, les hommes qui savent. Et alors, cette tribu des hommes qui savent est légèrement différente de sa tribu à lui, les hommes droits, au niveau physique, mais c'est très léger.
En fait, c'est la confrontation Néandertal-Sapiens, et on s'est fréquenté pendant quelques dizaines de milliers d'années. Néandertal a disparu à peu près il y a 30 000 ans, en Europe en tout cas, et nous, c'est le moment où on a émergé. Et véritablement, bon, on a longtemps pensé que c'était une espèce de grosse brute informe qui était limite débile, mais ça c'était de l'ethnocentrisme de notre part, encore une fois, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il n'y avait que nous.
Forcément, l'autre était moins bien que nous,
l'être supérieur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Non seulement Néandertal avait la parole, ce qu'on lui a longtemps nié, parce qu'il avait un larynx, etc., maintenant on le sait. Il avait des rites funéraires, ça aussi on le sait maintenant, donc c'était quand même une conscience de la mort et tout ça. Il avait, on pense, certaines formes d'expression artistique, moins développées que Sapiens, mais malgré tout. Et surtout, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on a du sang, enfin de l'ADN néandertalien en nous. Et ça, c'est assez nouveau, ça, que quelques années. Les paléontologues s'en doutaient depuis un petit moment, mais l'ADN et la biologie moléculaire l'ont prouvé. Maintenant, on sait qu'on a à hauteur de entre 2 à 4% d'ADN en nous qui est néandertalien. Et ça met un coup de pied dans la fourmilière de pas mal de théories reçues, d'idées préconçues sur ce que nous sommes, nous, en haut de l'échelle du développement. C'est un peu plus compliqué que ça.
On vient bien de quelque part et de voilà.
Il ne faut pas l'oublier, on a longtemps nié cette origine. Oui. Même on la connaissait pas. Maintenant, on a la preuve de ça et bon voilà, il y a longtemps. Je pense que ça fait du bien à certaines personnes de se rappeler qu'on a été des animaux, mais on a été aussi. On a une partie en nous. On n'est pas c'est pas du sang pur. Nous sommes des croisés, et ça c'est bon, ça.
Mélanger, c'est le
croisement, c'est la richesse. Et moi je pense que aujourd'hui, dans certains milieux, au milieu de certains courants d'idées, c'est bien de rappeler que le mélange, ça fait du bien, ça fait du bien à l'humanité.
Oui. Voilà, bah, d'ailleurs, on va le voir. Le père de Moon, je veux qu'il prenne femme dans une autre tribu pour justement mélanger les sangs.
Pour pas que
les enfants meurent, parce que les hommes droits sont en train de péricliter. Donc on va le voir. Donc il est capturé, comme on le disait, et il est emmené, donc, je cite, dans un tunnel creusé par la nature qui traverse la montagne. Ça m'impressionne beaucoup, ce décor à Munj. Et il comprend aussi le langage des hommes qui savent, et il essaye de clamer son innocence pour cette mort, la mort de ce jeune guerrier, mais sans succès, car le chef décide de l'emprisonner au fin fond de la montagne, dans un espace sombre, sans repère, dans la tanière de l'ours, le temps qu'il statue sur son sort. Et donc, pendant qu'il attend au fond de cette montagne, enfin au cœur de la montagne, Munj va quand on attend comme ça dans le noir, dans des conditions difficiles, le froid et tout ça, pour se réchauffer un peu, il se rappelle un peu ses voyages, les voyages de ses ancêtres, sa tribu qui lui manque, et puis donc c'est les voyages de ses ancêtres qui, eux, ramenaient les dessins sur des feuilles d'arbres et qui racontaient comme ça le monde qu'il découvrait au leur quand il rentrait avec ses feuilles d'arbres dessinées. C'est un peu, on pourrait dire, le début des cartes, finalement.
Oui, c'est ça.
Ces dessins.
C'est très prétentieux de ma part, mais au départ, je me suis dit, je vais inventer un... Bon, je le voulais humaniste, mais je le voulais aussi...
Curieux, cartographe,
le personnage du cartographe. Et je pense, encore une fois, un cartographe, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir l'humanité, qui a envie de découvrir le monde. Ils n'ont pas tous été des grands humanistes, mais lui, c'est sa mission. C'est pour ça qu'il s'appelle l'homme qui dessine.
L'homme qui dessine,
et de père en fils, c'est leur mission. Ça lui donne une dimension au niveau de la réflexion, au niveau de l'intériorité, très différente de l'image qu'on se fait de l'homme préhistorique. Je suis certain qu'il y avait plus de profondeur que ce qu'on veut bien leur prêter.
Je pense aussi. Je pense aussi. Alors, il se rappelle aussi Dréa, sa promise, mais dont son père a refusé l'union justement parce que il voudrait que son fils Munj prenne une femme dans une autre tribu, comme je le disais, afin de mélanger les sangs, pour ainsi essayer d'éviter la mort prématurée des enfants de la tribu, de la tribu des hommes droits qui meurent comme ça prématurément, on ne sait pas, par un mal inexpliqué, inexplicable pour eux.
En tout cas, inexpliqué à ce jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui a fait disparaître,
Néandertal. Et alors, Munj réussit ensuite à avoir un sursis de vie de 7 jours afin de découvrir le meurtrier des différents jeunes guerriers de la tribu des hommes qui savent. Parce que même quand il était dans la tanière de l'ours, enfermé, au cœur de la tanière, eh bien, il y a eu un autre corps sans vie qui a été découvert parmi les hommes qui savent. Donc, c'est sûr que ça ne pouvait pas être lui, mais il lui prête un peu de la magie, de la sorcellerie. Comme il est forcément étranger, forcément on en a peur.
C'est l'autre, on ne le connaît pas, c'est un problème pour beaucoup de gens. Là, c'est un peu une lutte contre l'obscurantisme. L'obscurantisme, eux, sont complètement ignorants des raisons pour lesquelles leurs chasseurs sont supprimés les uns après les autres. En gros, il y a un serial killer, l'idée c'est ça. Eux l'ignorent, et lui, il est un peu plus éclairé parce qu'il voyage, il a vu d'autres tribus, et il va s'atteler à la tâche de sauver sa peau, en fait. C'est une course contre la montre pour sauver sa peau. Et il va essayer de prouver que ce n'est pas lui en montrant qu'il y a une explication rationnelle à tout ça.
Oui, que voilà, ce n'est pas forcément des croyances, des choses un peu...
Finalement, on est dans un sujet récurrent de la littérature. Si je prends Umberto Eco, c'est la lutte contre l'obscurantisme.
Et
il y a une course contre la montre.
Le savoir
contre la superstition ou la religion, même, on pourrait dire. Et c'est toujours une lutte contre la montre aussi. Il y a une course contre la montre, parce que chez Umberto Eco, l'Inquisition va arriver. C'est les fameux 7 jours qu'il a comme sursis.
7 jours, c'est peu pour faire parler 7 morts. C'est une tâche difficile pour Munj. Et en plus, il est escorté pour mener son enquête. Il est escorté par les deux fils du chef, Mai et Aoud, qui l'escortent donc partout. Il est même surveillé, gardé, on va dire, par les deux fils du chef. Et donc, il va mener son enquête, mais il ne peut pas, par exemple, examiner les corps, parce que, à cause des coutumes des hommes qui savent, on ne peut pas examiner un corps, parce que c'est sacré. Et puis, quand il pose des questions aux familles des victimes, il se heurte, justement, à la méfiance, à la peur et à l'hostilité. Et donc, ça ne donne rien non plus au niveau du questionnement qu'il a auprès des familles. Alors, les deux fils du chef sont très différents. Il y en a un, donc c'est Aoud, qui est très hostile à Munj et qui aimerait que son... n'est pas d'accord avec la décision de son père, le chef. Il aimerait tuer sans délai Munj. Et puis l'autre, le second, Mai, lui, est beaucoup plus ouvert aux paroles de Munj. Il est plus enclin à la tolérance et à la compréhension de cet étranger, justement.
Oui, parce que ça aurait été trop simple de faire le néandertalien gentil, les méchants sapiens. C'est plus compliqué que ça, encore une fois. C'est-à-dire que dans cette tribu, il y a aussi des gens qui, comme chez nous, sont plus ouverts que d'autres. J'avais envie de parler de ça aussi, de faire des personnages un peu en nuance, pas forcément dans le blanc et noir.
Oui, manichéen.
C'est plus intéressant.
Surtout
qu'il y a des raisons à tout ça. Donc,
je déroule un petit peu, mais on
travaille aussi sur l'histoire du clan.
Il y a des raisons qui font que quelqu'un est plus agressif que notre. Tout à fait, je garde le suspense. Je déroule un petit peu l'histoire, mais sans trop. Je fais très attention pour laisser le suspense aux auditeurs et puis aux futurs lecteurs qui nous écoutent. Alors Munj demande ensuite à Djub, c'est le nom du chef, de mettre la tribu à l'abri dans les galeries de la montagne pendant la nuit afin qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Et puis, et Munch, alors, là, c'est amusant. Enfin, c'est pas amusant. Munch se sent, alors, malgré qu'il soit l'étranger, l'ennemi, le prisonnier de cette tribu des hommes qui savent, il se sent l'un des leurs. Cette horde lui rappelle sa tribu à lui, qui lui manque d'ailleurs, et il protège, et il décide de protéger donc cette horde des hommes qui savent, malgré tout. Donc il y a quand même une... il se sent comme eux.
Ben, ouais, humain.
Oui, ben oui, et c'est voilà, ça.
On partage
tout à fait.
Ça, c'était des
tout
homos, des homos non pas sapiens, mais néandertalensis, mais voilà, on partage quand même le mot homo, donc humain.
Tout à fait, il se sent humain, bien qu'il soit traité comme un prisonnier, comme un étranger, comme un ennemi.
C'est peut-être déjà le début du syndrome de Stockholm. On sympathise avec
ah
son...
Ah oui, j'avais
on
pas...
On sympathise avec son
oui,
geôlier, quoi.
J'y avais pas pensé, oui, c'est vrai. Alors, le second fils du chef... Mai parle à Munch, il se rapproche de lui, ils deviennent davantage complices. Il lui parle justement de Womb, le ventre de la montagne qui les a déjà sauvés des loups et d'un hiver très rude. Et en retour, Munch lui parle de ses dessins qui servent à savoir et à raconter comment est le monde qui les entoure. Il parle aussi de sa tribu qui périclite et des enfants qui meurent prématurément. Et il y a comme ça entre eux un échange qui se noue, une complicité entre les deux jeunes hommes de ces deux tribus différentes.
Oui, il y a peut-être un peu d'ambiguïté d'ailleurs dans ces rapports.
Peut-être.
Voilà. On ne sait pas. C'est peut-être aussi en effleurant peut-être le thème de l'homosexualité.
Enfin, voilà. Aussi, oui, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de choses.
Et
hein,
ça
dans
fait
ce,
peut-être du bien aussi
livre.
À certains lecteurs. Voilà, je ne sais pas de lire aussi que. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que.
Oui, pourquoi ça n'aurait pas existé à cette époque ancienne. Pourquoi ça n'aurait pas existé.
On ne sait pas, mais moi je ne vois pas de raison pour laquelle ça n'existerait pas.
Tout à fait.
Et donc c'est encore une fois, je pense que c'est bien d'amener ce genre de thème aussi et de représentation. Dans la préhistoire.
Oui, tout à fait.
C'est peut-être encore une fois, c'est peut-être complètement faux, et c'est peut-être une façon très très moderne de traiter l'homosexualité. C'est-à-dire parce que parce que je peux pas en dire trop par rapport au roman,
mais
la façon dont j'en parle est peut-être très moderne et peut-être trop moderne, j'en sais rien. Mais en même temps, je me réfugie toujours derrière la licence littéraire en disant, puisqu'on peut pas prouver le contraire, je peux l'affirmer.
Ne pas, voilà. Exactement. Alors, Munch va essayer de se mettre à la place du tueur pour savoir, enfin, pour essayer de comprendre, enfin, et de savoir ce qu'il va faire. Et il a alors l'idée, j'ai trouvé l'idée très, très, très originale, de lui tendre un piège en fabriquant des faux hommes. Alors ça, j'ai trouvé que l'idée était excellente, ces faux hommes. Donc, ce sont des mannequins, en fait, qui sont fabriqués avec des crânes d'animaux, du bois, de l'herbe, et qui sont recouverts de peaux de bêtes. Et les femmes de la tribu vont leur donner formidable humaine et ça va être très réel, enfin ça va être on va penser que ça va être que c'est comme des vrais humains.
Moi je trouve
que
t'en dis beaucoup quand même là.
Ah oui. Ah zut,
non,
tu
non,
voulais
non,
pas
non,
qu'on
mais...
en parle des mannequins.
Non mais c'est on est oui mais je trouve que voilà il y a
j'ai trouvé l'idée excellente.
Non mais bon voilà, pour ceux qui liront cette scène là quand on écrit quand on écrit, on est content de son travail. Forcément, on aime ce qu'on écrit, donc on a de l'estime pour ce qu'on écrit. Mais il y a des moments de grâce quand on trouve quelque chose, quand on trouve une idée comme ça. Et cette idée-là, de scène-là, quand je l'ai trouvée, j'avoue que j'étais plus que content.
Non,
j'étais fier
fier
de moi.
Elle est excellente.
Ouais. C'était un moment de grâce parce que je sentais que j'étais en train d'écrire quelque chose de vraiment super comme idée. Voilà.
Et d'ailleurs, les femmes de la tribu qui font ces mannequins, elles aussi ressentent ce plaisir, cette émotion.
Oui, on est sur le beau. On l'évoquait tout à l'heure, encore une fois.
Oui.
C'est une autre façon de qualifier peut-être l'humain. C'est le sentiment du beau, c'est peut-être ce qui nous définit aussi.
Oui,
aussi.
Peut-être
pas
aussi.
Que, mais aussi.
Et avec ce mot aussi qu'il ne connaît pas, Munch, enfin cet objet plus exactement, le bijou, le bout d'os percé dans lesquels mettent une lanière, les femmes mettent une lanière dedans, c'est l'ancêtre de nos colliers à nous, femmes d'aujourd'hui.
Bah, c'était des colliers.
Les colliers,
les broches existaient à cette époque-là, donc en moins de 30 000 ça existait. C'est assez fou de se dire ça, et ça ne sert à rien.
Ça sert à faire joli, à rendre belle la personne.
Bah, c'est de l'émotion, c'est ce qui nous distingue peut-être des animaux. Je sais pas, encore une fois, je parle sous le contrôle de l'académie, j'en sais rien, mais moi je pense que quand on quand on est sensible au beau, c'est que c'est déjà pas mal. Et c'est déjà un grand pas vers l'humanité. Il y a plein de gens aujourd'hui qui nient ça, qui ne s'intéressent pas au beau, et qui nient aussi la nécessité de l'art dans la société, qui en arrivent à questionner ça, à réduire les budgets de la culture et de l'art. Je pense que c'est peut-être un moyen de se questionner. Ça remonte à loin, tout ça.
Oui. C'est comme les peintures sacrées qu'il va chercher, Munch. Il va chercher les fameuses peintures sacrées dont a parlé par inadvertance une jeune femme qui sait. Et c'est ça aussi l'art.
Alors il y a le sacré dans l'art, mais il y a aussi quelque chose qui ne sert à rien comme l'art et forcément utile, puisque c'est là depuis le début.
Donc, oui, qui raconte...
Le signifiant de tout ça, on...
qui raconte la vie d'une tribu, qui raconte des choses.
Oui, alors ça c'est mon interprétation. Hein. Mais on a beaucoup de mal. Alors après là, je pourrais évoquer Jean Clotte, qui est un grand spécialiste des peintures pariétales. Et bon, on en a discuté tous les deux, Jean Clotte et moi, sur mon interprétation. Il n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation, même s'il reconnaît que c'est de la licence littéraire, et que encore une fois. Mais lui, lui qui a étudié ça toute sa vie, encore aujourd'hui, c'est très très controversé. Même entre eux, les spécialistes entre eux ne sont pas complètement d'accord sur l'interprétation à donner aux peintures pariétales. Ouais. C'est compliqué. La mémoire, on ne sait pas, en tout cas, on sait que ce n'était pas exposé en plein jour.
Dans les peintures sacrées de ton livre dans l'homme qui dessine, il y a cette notion de beauté, d'esthétique et puis surtout d'utile, puisque ça sert à raconter quelque chose.
La mémoire. Ouais.
La mémoire, voilà, la transmission de ce qui se passe, de la vie des hommes, c'est important, cette transmission, cette mémoire. Alors, on ne va pas tout dire, hein, parce que déjà, tu trouves que j'en ai trop dit, Benoît. Donc, il y a des nuits, il y a une battue qui est organisée pour trouver la cache du meurtrier. Il y a des nuits de garde où on surveille les alentours pour prendre au piège ce meurtrier. Et en fait, on ne racontera pas la fin pour laisser le suspense. Mais la troisième nuit de garde va être décisive pour la vie des hommes qui savent, pour la vie de l'homme qui dessine, pour la suite, toute la suite, pour l'évolution, on va dire.
Oui, bien sûr. Et puis, pour une fois, j'ai fait une fin ouverte.
Ah oui, tout à fait.
Pour une fois, je ne clôt pas le roman de façon brutale. Je laisse ouvert à peut-être une suite, j'en sais rien.
Ah oui, une suite. Ah bah oui, oui,
non,
oui.
Non, non,
oui,
j'ai laissé ouvert exprès.
Ah bah oui, mais ça...
c'est une bonne idée.
Oui, mais oui. Non, bon. Moi, je suis partant.
Après, il faut l'écrire. Après, faut l'écrire.
Oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, une suite à l'homme qui dessine, et oui, pourquoi pas. Mais donc, voilà, donc jusqu'au bout, le suspense est garanti. Et puis, c'est un livre qui, une fois terminé, on y repense forcément. Parce que il ne laisse pas indifférent, forcément, puisqu'il est proche de nous, parce qu'il parle quand même si c'est un roman, il parle de nos origines, et on ne peut pas s'empêcher de se le rappeler. Je ne sais pas, quand on va dans un magasin, quand on prend le bus, parce que tout n'a pas toujours été comme c'est là maintenant, et que ma foi, ça vient de loin tout ça, et que. Et enfin moi ça m'a beaucoup touchée. Ce livre m'a beaucoup touchée.
Merci beaucoup. Touchée. Non mais je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit comme ça aussi avec traversé par tout ça, par cette espèce d'émotion que j'ai à repenser à nos origines. Mais
toi aussi, bien sûr.
Et puis, je pense qu'il y a un peu la même émotion. C'est marrant parce que c'est les deux extrémités un petit peu. La préhistoire, c'est un peu comme l'astronomie. C'est fascinant, c'est sans fin. On n'en sait pas grand-chose finalement et on en apprend tout le temps. Et tout ce qu'on apprend, on remet en question tout ce qu'on pensait savoir. Et tout le temps. Et quand on s'intéresse à ces domaines-là, on est traversé par un grand sentiment d'humilité parce qu'on ne saura jamais vraiment tout et une grande excitation intellectuelle et en même temps une grande émotion existentialiste.
Oui,
c'est nos origines et le ciel, ça peut être peut-être notre avenir, j'en sais rien.
Et en tout cas, c'est, voilà, dans le livre, on le ressent. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, la lecture. L'homme qui dessine aux éditions Cirrose, on le ressent dedans.
Bon, bah, merci, très bien, super.
Tu voulais...
Non, je voulais juste dire que le polar, c'est ça, quoi. Le polar, ça permet d'amener des choses relativement profondes et sensibles sur ce que nous sommes, sur ce que l'homme est. Et ça, le roman policier est un très bon moyen, un très, très bon levier pour ça.
Tu penses que c'est l'aspect policier qui peut...
Oui, parce que l'aspect policier permet de rentrer dans tous les... De toucher tous les milieux sociaux. On peut même toucher à la préhistoire.
Oui.
Quelle légitimité mieux que celle-là?
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Bon, puis je lance aussi, avec l'enquête policière, je lance un fil rouge qui permet aussi aux gens de tourner les pages en se concentrant aussi sur l'action. Il y a aussi de l'action.
Oui, il y a de l'action, tout à fait.
Suspense, quoi.
Il y a tout. Voilà, c'est une belle idée de cadeau à offrir et à s'offrir pour Noël, là, avec Noël qui va approcher. C'est vraiment l'occasion d'avoir dans ses souliers un bon livre qu'on trouve dans les bonnes librairies. Et en tout cas, merci beaucoup, hein, Benoît, d'être venu à Page à Page, et puis
pour plaisir,
ce roman,
comme d'habitude.
L'homme qui dessine aux éditions Cirrose. Alors, d'autres projets d'écriture, j'imagine?
En cours, je ne dirai rien. Oui, oui, il y a
tu
ne
veux
choses
pas
en
nous
cours.
En dire plus?
Non, je reviendrai.
Tu reviendras pour nous présenter
Non, il y a des choses en cours.
Bientôt, l'année prochaine?
Oui, je pense que... Enfin, on verra.
Tu nous tiens au courant.
Ça vient.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Benoît. On se retrouve vendredi 21 novembre sur Radio Occitanie à 15h. Et je recevrai Emmanuel Urien et son recueil de nouvelles, Le bruit de la gifle, publié aux éditions Quadrature. Un très bon recueil avec des nouvelles très, très noires pour certaines, mais avec beaucoup d'humour aussi.
C'est Emmanuel Urien.
Mélange de noir et d'humour. Voilà, c'est Emmanuel, tout à fait. Merci et à d'ici à tous. Boop boop be doop.